sais pas si vous regardez beaucoup la télé, moi il m'arrive de la regarder quand même le soir, après les longues réunions d'église, après un conseil presbytéral un peu tendu, ça arrive, et bien je me mets devant la télévision et je regarde, ou je me mets devant mon ordinateur. C'est un privilège d'avoir un ordinateur parce qu'on peut faire du replay et regarder les émissions qu'on a ratées. Et j'ai une émission en commun que j'aime bien avec Raphaël. Je suis désolé, Raphaël. On est là pour parler en vérité, c'est Koh-Lanta. Je ne sais pas si les parents confirment que voilà, on a tous nos petits travers. Bon, voilà, je partage avec vous ce travers. Dans Koh-Lanta, il y a un moment culte de l'émission, c'est le moment de l'orientation. C'est-à-dire qu'ils sont quatre et au bout de l'orientation, ils ne sont plus que trois pour aller sur les poteaux, épreuves mythiques. Et donc il y a des poignards qui sont, je ne sais pas si vous connaissez, mais en deux mots, il y a des poignards qui sont cachés, et il s'agit de les retrouver avec une boussole quand même, et puis de trouver le bon azimut, puis après il faut calculer le nombre de pas et on arrive au poignard. Et en relisant ce texte que tu nous as lu, il m'a semblé que dans la vie chrétienne, c'est comme à Koh-Lanta pour une part, on avait besoin d'être orienté, d'être bien orienté, et dans ce texte, il me semble qu'il y a quatre orientations comme une boussole qui nous sont données. Première orientation, la prière au cœur de la vie chrétienne. Deuxième orientation, dont tu nous as beaucoup parlé, Raphaël, et je m'en réjouis, la communion fraternelle. Troisième orientation, l'engagement, pas de vie chrétienne sans engagement. La vie chrétienne, c'est aussi des actes posés jour après jour. Et enfin, quatrième orientation que nous lisons dans ce livre des actes, la fraction du pain. Je reviens sur chacune de ces dimensions. Tout d'abord, la dimension de la prière. Dieu qui dit à Salomon, j'ai entendu ta prière. Oui, peut-être que le peuple d'Israël a péché, peut-être que toi-même aussi as péché, mais j'ai entendu ta prière. J'ai entendu que ton cœur avait été touché. Et alors, je veux te dire que je vais te pardonner, que je vais pardonner au peuple d'Israël. Je veux te dire que je t'ai écouté, je veux te dire que je veux te guérir et que je veux guérir le peuple dont tu es responsable. La prière au cœur de la vie chrétienne est peut-être de manière plus particulière ce matin, la prière de repentance. Souvent, elle n'a pas très bon écho, cette prière de repentance, peut-être parce que on l'a associé à la parole de Jean Calvin qui assimilait cette prière à une prière d'humiliation où il fallait nous humilier devant Dieu, lui le très grand, lui le très puissant. Mais je ne crois pas que cela soit ça la prière de repentance. Je pense que c'est un moment, un espace où nous pouvons nous dévoiler en vérité devant Dieu, où nous pouvons lui dire nos faiblesses, nos peurs, nos craintes, et recevoir de lui une parole de pardon, une parole de guérison qui nous dit: je te connais, je sais de quel bois tu es fait et je t'accepte tel que tu es, fais-moi confiance. Par la prière de repentance comme cet espace d'écoute qui nous est proposé. Et ce n'est pas un hasard, je crois, s'il y a de moins en moins de gens dans les églises et de plus en plus de gens qui sont dans les cabinets de psychanalystes et de psychologues. Mais je ne dis pas ça en plaisantant, et reconnaissance aux psychologues et aux psychanalystes parce qu'ils offrent ce que les gens ne savent plus trouver, un espace où ils sont écoutés, sans jugement, où ils peuvent se dire librement, en sachant que le monde ne saura pas ce qui est dit dans cet espace protégé. Eh bien, nous avons cette chance extraordinaire, c'est que cet espace d'écoute nous est proposé auprès de Dieu. Cet espace de la prière de repentance. Cet espace où Dieu nous dit: je veux venir à toi, je veux te guérir, je veux mettre un baume sur tes blessures. Il y a des moments de la vie où nous sommes plus particulièrement blessés parce que la femme ou l'homme avec qui nous vivions a décidé de partir, brisure d'un couple, moment où nous perdons un être cher, et cela vient bien sûr briser notre vie, la façon dont nous envisageons notre vie. Des moments de difficulté où nous perdons notre emploi et tout est remis en question. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir retrouver un emploi? Il y a des moments dans notre vie où nous sentons coupables d'un mauvais geste, d'une mauvaise pensée, d'une mauvaise parole prononcée à un ami, à un frère, et que cela nous pèse. Eh bien, la prière de repentance est là pour dire cela à Dieu et pour recevoir de lui son pardon. Il y a un petit passage de l'Évangile que j'aime bien. C'est qu'au moment où Jésus appelle ses disciples, il leur demande une chose, « Laissez près du bord une barque afin que je puisse monter dans cette barque et partir. » Jésus lui-même avait besoin de ces temps-là, ces temps où il prenait sa petite barque, il partait sur le lac et puis il pouvait entrer en prière avec son Père et recevoir de lui la force, le courage pour continuer son ministère. Première orientation dans la Bible, dans la boussole chrétienne, la prière. La deuxième orientation, la communion fraternelle. Je vais aller un peu plus vite parce que tu nous as beaucoup parlé, Raphaël. Tu nous as dit combien la présence de tes amis en camp scout, la présence de tes amis dans les camps de ski ont été importants pour toi dans ton chemin de foi. Il me semble qu'il y a trois, en tout cas je le perçois comme ça, trois espaces différents de communion fraternelle possible dans notre vie de chrétien. Ce premier espace d'abord, c'est celui que j'appelle l'espace de la chambre haute, c'est celui qu'on partage avec des amis très proches, celui qu'on partage dans une église dans le cadre d'une activité toute particulière, où on n'est pas très nombreux, où on a tissé des liens, où on peut se dire en vérité des choses, un petit groupe de 10, 15 personnes. Et c'est très précieux d'avoir cet espace que j'appelle cet espace de la chambre haute. Pour toi, il me semble que c'est le groupe des jeunes et puis aussi le scoutisme aussi, voilà. Deuxième espace de vie fraternelle, de communion fraternelle, c'est l'espace du culte. Et là, c'est un peu différent. Il y a dans l'assemblée du culte des gens qu'on n'a pas forcément choisis, des gens avec lesquels on ne partirait pas forcément en vacances, des gens avec lesquels on n'a pas forcément d'affinité. Et c'est bien comme cela. Et c'est la volonté de Dieu. Le corps du Christ, il est composé de gens très différents. Et je me réjouis, Raphaël, que tu investisses aussi ce temps-là, ce temps du culte, ce temps de communion fraternelle, nous est offert dans le cadre du culte au travers de ton accompagnement musical au cours des cultes. Et j'espère que cela va perdurer. Petit clin d'œil, petit appel. Et puis il y a un troisième espace de communion fraternelle, c'est celui de l'Église universelle. On n'est pas seulement membre d'une Église, on n'est pas seulement membre d'une Église nationale, mais on est membre de l'Église du Christ, de l'Église universelle. Tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et c'est très important d'avoir cette dimension-là. Nous la vivons heureusement dans notre église, notamment avec le Centre Saint-Marc. Nous allons le vivre d'une autre manière cet après-midi à 17h30 avec une marche de la fraternité, en communion, en tout cas en cheminement spirituel partagé avec d'autres religions. Et ce qui est beau, il me semble que déjà, Raphaël, tu vis aussi cette dimension de l'église universelle. Dans le cadre des rassemblements jeunesse nationaux, le grand kiff, tu en as fait, où c'est déjà une ouverture à l'église universelle, et aussi dans le cadre du scoutisme au travers des rassemblements régionaux ou même des rassemblements nationaux voire internationaux. Donc je me réjouis que tu vives déjà ces trois espaces de communion fraternelle et je fais le vœu que tu puisses continuer à les vivre au fil des jours de ta vie de chrétien. Troisième orientation, l'engagement. Pas de vie chrétienne sans engagement. La vie chrétienne, c'est pas que des mots, mais c'est des actes. Et c'est peut-être pas un hasard si tu as choisi ce texte, des actes des apôtres. On ne nous parle pas des paroles des apôtres, on nous parle des actes des apôtres. Ce sont des actes qui sont posés. Et dans le texte que tu as relu, il y a vraiment cette exhortation à être fidèle à Dieu jour après jour. C'est pas un jour sur deux, c'est un engagement de tous les jours. Tous les jours, il se rendait au temple. Tous les jours, il méditait la parole de Dieu. Tous les jours, il partageait le pain et le vin dans les chambres hautes. L'engagement, il me semble que tu sais ce que c'est, toi qui aimes faire du parcours, toi qui as fait un peu de cirque, à un moment, il faut s'engager, à un moment. Il ne faut pas s'engager n'importe comment, ça demande de l'entraînement, ça demande de la préparation physique et mentale, mais une fois qu'on s'est préparé, eh bien, il n'y a pas le choix. Il faut y aller, il faut s'engager. Un homme dont nous fêtons le cinquantenaire de la mort, Martin Luther King nous l'a bien montré, on a revu un reportage au groupe des jeunes qui nous le disait à un moment, Martin Luther King reçoit cette exhortation de la part de Dieu, il doute un petit peu, tellement la pression est grande sur ses épaules, tellement on veut le mettre à mort, il ressent cette pression, il entend cette parole qui lui vient de Dieu. Lève-toi pour la justice, Martin, lève-toi pour la justice. Tes frères ont besoin de toi, alors à l'écoute de cette parole, il se lève pour la justice, en sachant qu'il prend très grand risque, et sa mort va le montrer. Mais il n'y a pas de vie chrétienne, il ne s'agit pas d'être comme Martin Luther King, il n'y en a qu'un seul. Mais tout de même, de ne pas oublier cette orientation-là de la vie chrétienne, la dimension de l'engagement. Pas, de christianisme sans engagement. Lève-toi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Enfin, la quatrième orientation, la fraction du pain. Les premiers chrétiens aimaient se retrouver pour partager le pain, pour partager le vin. Et cela se faisait à l'origine au sein même d'un repas. Et c'était finalement très important. Aujourd'hui, on a gardé le rituel du pain partagé et du vin partagé. Mais il me semble qu'on a perdu quelque chose du sens premier, du partage, d'une communion fraternelle. Et dans la Sainte Cène, dans la fraction du pain et dans le partage du vin, on retrouve les deux éléments de la vie chrétienne. Et finalement, la croix qu'on aperçoit à peine, barre verticale et barre transversale, nous dit cela. Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu, être en communion avec lui. Dans la Sainte Cène, il y a quelque chose de tout à fait personnel. On mange soi-même le pain qu'on a reçu, on boit soi-même à la coupe avec notre propre bouche. Et puis il y a aussi la dimension communautaire, la dimension horizontale. On fait cercle, comme nous allons faire tout à l'heure, on se donne le pain et on se passe la coupe. Sainte Cène, qui est paradoxale parce qu'elle annonce à la fois la mort de Jésus-Christ, elle fait mémoire de sa mort, donc elle est d'une certaine manière tristesse, mais elle est aussi joie du royaume à venir, joie de la grâce que nous avons reçue, joie de savoir que nous sommes, quoi qu'il arrive, si nous avions mis notre confiance en Dieu, les bien-aimés de Dieu. La prière, la communion fraternelle, l'engagement, la fraction du pain, mais tout ça, ce ne serait pas possible sans, évidemment, l'intervention du Saint-Esprit. Le texte que nous avons reçu de Jean, où Jésus reçoit le baptême, nous le dit bien. Jésus reçoit un baptême d'eau, il reçoit aussi un baptême d'esprit, l'esprit qui descend sous la figure d'une colombe, comme une colombe, nous dit le texte biblique, et qui se pose sur Jésus et qui va lui donner la force de commencer son ministère. Alors avec ces quatre orientations, Raphaël, avec la prière, avec la communion fraternelle, avec l'engagement, avec la fraction du pain, peut-être qu'il peut arriver de t'égarer comme à Koh-Lanta, certains candidats s'égarent, ils tournent des heures en rond et ils ne trouvent jamais le poignard. D'autres au contraire, en 10 minutes, trouvent tout, ils trouvent la balise, ils trouvent le poignard, et cela peut paraître profondément injuste. Dans la foi, il peut y avoir du hasard, mais il y a surtout aussi souvent l'intervention de Dieu par le souffle de son esprit. Si on ose se remettre entre ses mains, alors souvent le Saint-Esprit rattrape beaucoup de choses, et heureusement, parce que ce serait impossible de vouloir être chrétien si on n'était pas sûr, persuadé que Dieu est avec nous, que Dieu nous accompagne. Raphaël, Dieu se réjouit de ton baptême et nous nous réjouissons avec lui. Amen.